Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Assassinat du général Soleimani, l'Iran exige la poursuite complète de l'affaire. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les ministres des Affaires étrangères iraniens et syriens se rencontrent à Moscou. Les évolutions en Palestine, deux jeunes Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, le régime sioniste est un monstre qui tue des enfants, dénonce Téhéran. Et puis la Syrie et l'Arabie saoudite annoncent la réouverture de leur mission diplomatique. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Syrie se rencontrent à Moscou. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Megdad, se sont rencontrés mercredi matin à Moscou. En marge de la réunion quadripartite entre les ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Megdad, se sont rencontrés mercredi à Moscou. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé mardi soir à Moscou dans le but de participer à la réunion ministérielle quadripartite sur la Syrie. À son arrivée à Moscou, le chef de la diplomatie iranienne a été accueilli par des responsables du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et de l'ambassade d'Iran dans ce pays. Amir Abdollahian doit assister ce mercredi à une réunion des ministres des Affaires étrangères iraniens, syriens, russes et turcs. Le ministre iranien des Affaires étrangères discutera également des développements bilatéraux et régionaux avec ses homologues lors de réunions en face à face. Le général de division Bareri rencontre le sultan d'Oman. Le chef d'état-major général des forces armées de la République islamique d'Iran a rencontré ce mardi le chef de l'État et du gouvernement omanais, le sultan Haitham bin Tariq. Le général de division Mohammad Bareri, qui s'est rendu à Oman à la tête d'une délégation militaire de haut niveau, a rencontré Haitham bin Tariq, le roi d'Oman, ce mardi après-midi 9 mai. Les deux hommes ont discuté d'importantes questions d'intérêt commun, régional et international. Au début de la rencontre, le général de division Bareri, tout en exprimant sa satisfaction de sa visite dans le pays ami et frère d'Oman, a considéré les relations entre les deux pays comme stables et positives et a noté « Le leader de la révolution islamique d'Iran considère Oman comme un bon voisin pour l'Iran ». ressent un tableau sur les évolutions qui touchent le monde d'aujourd'hui, qui est sur le point d'entrer dans un nouvel ordre. Le chef d'état-major général des armées a ajouté « L'avenir du monde montre un ordre multipolaire, un ordre dans lequel le pouvoir du monde se déplace de l'Occident vers l'Asie ». Ces évolutions affectent certainement notre région et nous avons certainement besoin de relations militaires plus étroites et d'établir la sécurité dans le détroit d'Ormuz, la mer d'Oman et le nord-ouest de l'océan Indien, a-t-il insisté. Le général de division a poursuivi « Les politiques de principe de l'Iran sont basées sur la fourniture locale de la sécurité dans la région et les actions conjointes de l'Iran et d'Oman peuvent créer une meilleure sécurité et prouver qu'il n'y a pas besoin de la présence étrangère dans la région ». Sachez également que pour le général Borrelli, les pays de la région surmonteront tôt ou tard les différents artificiels et leurs divergences. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Borrelli, a déclaré qu'il existait des faits précis de convergence entre les nations de la région, espérant que les États surmonteraient bientôt leurs divergences. L'actualité, c'est également la Palestine. En Cisjordanie occupée, deux autres jeunes Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Deux Palestiniens ont été tués ce mercredi 10 mai par les forces israéliennes lors d'un raid nocturne dans la ville cisjordanienne de Kabatia, au sud de Jenin. Les tensions ne cessent de s'intensifier un jour après qu'Israël a lancé une attaque contre la bande de Gaza, tuant trois commandants du mouvement du djihad islamique de la Palestine. L'armée israélienne a allégué dans un communiqué que les assaillants ont ouvert le feu sur des militaires israéliens depuis un véhicule et qu'ils ont riposté par des tirs réels, ajoutant qu'elle avait saisi un fusil d'assaut et une arme de poing dans la voiture. Le ministère palestinien de la Santé a identifié les deux hommes comme étant Ahmed Jamal Taoufir Assaf, un jeune de 19 ans, et Rani Walid Katanat, un résident de 24 ans du camp de réfugiés de Jenin. Un autre Palestinien a été blessé dans l'assaut. Des témoins oculaires ont déclaré qu'une importante force armée a attaqué la ville, près de la ville septentrionale de Jenin, sous une forte présence de drones et a fermé les rues principales de la ville. Réagissant aux évolutions tragiques, Téhéran a qualifié le régime sioniste de monstre infanticide. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Nasser Kanani, en réponse à la démolition d'une école palestinienne par le régime sioniste, a décrit ce régime comme le même monstre qui tue des enfants et un cauchemar pour l'enfant palestinien. Le diplomate a écrit sur son compte Twitter que le régime sioniste criminel a barbarement pris la vie des enfants palestiniens plus tôt mardi, au moment où ses forces détruisaient une école dans les territoires occupés. Le régime sioniste est le même monstre tueur d'enfants qui hante constamment les enfants palestiniens dans leur cauchemar, a-t-il dit. La Syrie et l'Arabie saoudite annoncent la réouverture de leurs missions diplomatiques. L'Arabie saoudite et la Syrie ont annoncé la réouverture de leurs missions diplomatiques respectives dans les deux pays, selon les médias d'État, plus d'une décennie après que Riyad a rompu les liens et commencé à apporter son soutien au groupe terroriste anti-Damas. Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé de relancer sa mission diplomatique en République arabe syrienne, a rapporté mardi l'agence de presse saoudienne. Damas a également annoncé la reprise des activités de sa mission diplomatique en Arabie saoudite, rapporte l'agence de presse officielle syrienne Sana. L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec la Syrie après le déclenchement d'une guerre dévastatrice soutenue par l'étranger en 2011 en Syrie. La violence a été suivie de nombreux rapports officiels faisant état de la fourniture d'un soutien de la part des États alliés aux terroristes qui avaient commencé une campagne d'effusion de sang et de destruction à travers la Syrie. Les groupes terroristes se sont rapidement emparés de vastes étendues du territoire syrien, obligeant Damas à rechercher l'aide de ses propres alliés, dont l'Iran et la Syrie, dans sa tentative d'inverser les gains des terroristes. Enfin, l'Argentine recourt à un système multipolaire pour s'émanciper de la crise économique. La deuxième économie d'Amérique du Sud pourrait devenir une partie importante du monde multipolaire tout en résolvant sa propre crise. L'Argentine va désormais payer ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars, le dernier développement d'un processus mondial plus large de dédollarisation. L'Argentine fait de son mieux pour rejoindre officiellement les BRICS, pour lesquels elle dit avoir le soutien du Brésil, de l'Inde et pour lesquels la Russie et la Chine ont fait allusion à un soutien possible dans le passé. L'Argentine est la deuxième économie d'Amérique du Sud avec un potentiel important de contribution aux BRICS, mais ce pays est également aux prises avec une crise économique de plus en plus extrême, avec une inflation galopante qui atteint de nouveaux sommets chaque semaine, selon les analystes. Un système financier multipolaire peut aider des économies en difficulté comme l'Argentine. Cet éloignement du dollar et l'adhésion aux BRICS peuvent en effet sauver le pays d'un désastre potentiel. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Assassinat du général Soleimani, l'Iran exige la poursuite complète de l'affaire. L'Iran demande instamment la poursuite rapide et complète de l'affaire de l'assassinat par Washington en 2020 de hauts commandants antiterroristes de la République islamique d'Iran et de l'Irak, le général de corps d'armée Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis. Lors d'une rencontre avec Faher Zaidan, le chef du conseil judiciaire suprême irakien, mardi 9 mai, le président iranien Ebrahim Raisi a mis en garde contre la perte de temps dans les procédures en cours pour traduire en justice les auteurs de l'atrocité. La poursuite de l'affaire jusqu'à l'obtention d'un résultat concret montrera que l'Iran et l'Irak ne reculent devant rien dans leurs efforts pour permettre l'administration de la justice envers les auteurs des assassinats, a-t-il rappelé. Le président Raisi a déclaré que la détermination de l'Irak à s'attaquer au jeu déloyal et épouvantable des Américains et ses efforts pour renvoyer ceux qui avaient commandité l'atrocité étaient clairs pour la République islamique. Pour sa part, le responsable irakien a déclaré que la poursuite du procès des individus impliqués dans cet acte terroriste était un des exemples de la coopération judiciaire fondamentale entre Téhéran et Bagdad. Cela intervient alors que Jabbar Odeh, membre de l'Alliance irakienne du cadre de coordination, a déclaré que toutes les procédures judiciaires étaient en cours à Bagdad concernant l'assassinat du haut commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, et de ses compagnons, ajoutant que les résultats de l'enquête seraient annoncés prochainement. Jabbar Odeh a déclaré lundi que les États-Unis, le régime israélien et leurs mercenaires ont été directement impliqués dans l'assassinat du général Soleimani et d'au moins 10 près de l'aéroport international de Bagdad. Il a ajouté que les groupes politiques irakiens n'accepteraient aucun atermoiement et aucune inaction dans cette affaire, sous aucun prétexte, soulignant que le sang pur des martyrs sera vengé par les voies légales et un procès équitable. Le politicien irakien a souligné que les tentatives des États-Unis et de leurs alliés visant à répandre des mensonges concernant le crime n'auraient aucun impact sur l'enquête, car tous sont conscients des efforts considérables des deux commandants dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh à travers l'Irak. Par ailleurs, le procureur en chef de Téhéran, Ali Salehi, a déclaré lundi 8 mai que dans l'affaire du général Soleimani, 73 personnes avaient été convoquées pour être jugées et inculpées, dont l'ancien président américain Donald Trump, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le chef du commandement central américain, le général Kenneth McKenzie. Il a ajouté que l'Iran avait envoyé des demandes séparées de coopération judiciaire à 9 pays qui avaient probablement joué un rôle ou été impliqués dans l'assassinat. Il a noté que les autorités judiciaires iraniennes et irakiennes avaient tenu 4 séries de pourparlers et de réunions pour examiner cette affaire, soulignant que les deux pays avaient exprimé leur ferme détermination à punir les auteurs du crime. Plus tôt ce mois-ci, le chef du parquet irakien a ordonné une enquête sur le rôle de l'ancien premier ministre Mustafa al-Kazimi dans l'assassinat du général Soleimani par les États-Unis. La presse a rapporté que des documents officiels délivrés par le chef du parquet le 4 avril et dévoilés le 30 avril montraient que le procureur général avait ordonné au tribunal fédéral spécialisé dans les enquêtes criminelles d'engager des poursuites judiciaires suite à une plainte déposée contre al-Kazimi et d'informer ensuite le bureau de résultats. Le tribunal doit examiner une plainte déposée par Hossein Monis, le chef de Harakat Hurur, au mouvement des droits contre al-Kazimi en tant qu'ancien chef du renseignement irakien. Harakat Hurur est l'aile politique du groupe antiterroriste irakien Kataib Hezbollah.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la tension est très élevée dans les territoires occupés dans la bande de Gaza suite à la mort donc, d'un jeune Palestinien qui montait tranquillement dans sa voiture. Il a été tué par un colon israélien délibérément. Alors, les manifestations prennent de l'ampleur dans les territoires occupés. Donc protestant contre les mauvaises conditions des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliens suite à la mort d'un jeune Palestinien qui avait observé une grève de la faim dans la prison israélienne. Alors dans le débat d'aujourd'hui, il sera également question de la 18e semaine de manifestation des Israéliens contre la réforme du système judiciaire qui a transformé le pays selon des manifestants en une dictature dangereuse. Tout d'abord, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après, avec des experts des questions internationales. Restez avec nous, je vous prie. Alors, dans ce reportage, on a vu les crimes commis par le régime sioniste contre les Palestiniens. Alors, à présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Philippe Hougon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous depuis France. M. Hougon, bonjour. Monsieur Hugon, bonjour. Philippe Hugon. Je suis sûr qu'il va nous joindre tout à l'heure. Un grand bonjour à Monsieur Ahmad Rami, qui est directeur de Radio Islam en Suède, depuis Stockholm. Monsieur Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Bien. Bonjour à nouveau à Monsieur Philippe Hugon, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Hugon, bonjour. Bon, mes collègues vont essayer de le joindre tout à l'heure. Ma première question va s'adresser à M. Ahmad Rami, qui est avec nous depuis Stockholm. Alors, M. Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède, donc vous êtes très bien placé. Dans les débats précédents, on parlait beaucoup, bien sûr, des crimes commis par le régime sioniste contre les Palestiniens. Et donc, vous en connaissez des détails donc, de ces crimes. Je voudrais que, tout d'abord, vous nous parliez de ce crime récemment d'un colon israélien qui a tué délibérément donc un jeune Palestinien qui montait tranquillement dans sa voiture. Alors, qu'est-ce que ça démontre à votre avis?
Oui, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le premier ni le dernier de ce les victimes palestiniennes sont des victimes continuellement depuis 1948. L'occupation veut dire l'occupation, c'est-à-dire la loi de la force, la loi de la jungle, l'injustice, l'humiliation que cette occupation fait subir au peuple palestinien victime. Et ça, c'est sous les regards du monde entier, et surtout de la nation islamique, qui, à part la République islamique d'Iran, qui réagit, qui fait son devoir, mais le reste du monde et de la nation islamique sont aujourd'hui, en réalité, paralysés face à ce qui se passe. Car c'est aujourd'hui les manifestations des occupants contre leur gouvernement d'occupation qu'ils dirigent eux-mêmes, en voulant plus d'occupation, plus de victimes palestiniennes, ben les Palestiniens, eux, en réalité, ils ne peuvent pas maintenant, comme les occupants, protester ou manifester contre cette occupation. Et leurs manifestations sont en réalité réprimées. Ils deviennent des victimes. Ils sont tués, écrasés par les occupants. Les occupants aujourd'hui qui veulent encore plus d'occupation en manifestant contre leur gouvernement, parce que en disant que le gouvernement n'est pas suffisant, il ne fait pas tout son, entre guillemets, devoir pour écraser les Palestiniens. Donc maintenant, les sionistes, en réalité, se chamaillent. Sur qui parmi eux, est le meilleur à écraser les Palestiniens, entre guillemets, le meilleur, c'est-à-dire le plus dur et le plus écrasant contre les Palestiniens.
Oui.
Et d'ailleurs, oui.
Oui, Monsieur Amadrami, je m'adresse toujours à vous, donc, avant de joindre Monsieur Philippe Hugon. Donc, c'est vrai que beaucoup de pays, donc, du monde ont condamné ce crime horrible commis par le régime sioniste, surtout le jeune Palestinien qui avait observé une grève de la faim dans les geôles israéliens, qui est malheureusement mort. Donc beaucoup de pays condamnent, mais évidemment cela n'est pas suffisant, à part quand vous avez dit la République islamique d'Iran qui agit donc directement pour punir donc le régime sioniste. Que pensez-vous donc de ces condamnations?
Oui. Il y a dans, aujourd'hui un double langage, une double face. Parce que, par exemple, ce qui se passe maintenant en Ukraine ressemble à ce qui se passe en Palestine. Il y a une occupation, mais le monde entier réagit, envoie des aides militaires, matérielles militaires, et punit. Il y a des punitions contre l'occupant en Ukraine, alors qu'en Palestine, au contraire, le monde entier maintenant soutient les occupants sionistes. Et donc il y a un double langage là, un double moral.
Tout à fait.
C'est-à-dire que on réagit tout de suite contre ce qui se passe en Ukraine, mais contre l'occupant, mais en Palestine, tout le monde, que ce soit les amis, tout le monde sont des amis d'Israël, de l'occupant. Et personne, en réalité, pas seulement ne punit pas l'occupant, mais ils aident même les occupants. Hein. Ils collaborent avec les occupants.
Tout à fait.
Tous les grands États collaborent avec Israël,
absolument,
avec les occupants.
Oui,
c'est
oui.
Un scandale.
Absolument. Un grand bonjour donc à Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre, qui est avec nous depuis France. Monsieur Hugon, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe.
Alors, je m'adresse à vous. Donc, Monsieur Ahmad Rami nous a parlé amplement donc, des crimes commis par le régime sioniste et du lobby sioniste, bien sûr. Mais, Monsieur Hugo, vous êtes un homme de terrain et c'est un plaisir de vous entendre dans cette émission. Ça vous est un bout de temps. Mais, alors, à chaque fois, l'expérience a démontré qu'à chaque fois, Israël a des problèmes intérieurs. Comme par exemple cette 18e semaine de manifestation contre la réforme judiciaire, donc du système judiciaire en Israël, à chaque fois qu'ils ont des problèmes économiques et politiques à l'intérieur du pays, on voit très 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 vite, et directement, donc ils en prennent donc aux territoires occupés, ils tuent des innocents palestiniens. Est-ce qu'il y a un lien direct avec ces deux ça?
Je pense que ça leur permet de détourner l'attention sur sur les problèmes qu'ils ont. Car il faut bien savoir qu'actuellement, il y a quand même, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, et il y a quand même de gros problèmes dans la société interne israélienne. Il faut bien savoir qu'à terme, ce régime est condamné. Il ne faut pas se faire des illusions. Avec l'évolution des choses, ils essayent par tous les moyens de montrer que les musulmans ou que le monde arabe est le problème dans leur société. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça ne pourra pas tenir encore très longtemps. Il faut savoir que moi qui vois pas mal de gens dans les universités, même au niveau des jeunes de confession israélite, hein, des jeunes qui ont 15, 20, 25 ans, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable scission avec les générations qui sont devant eux. Si les générations qui sont devant eux ont soutenu d'une façon indéfectible le régime israélien, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail et le marché de la politique. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution qui va se faire, et heureusement, parce qu'on ne peut pas continuer à massacrer des gens qui réclament un morceau de terre. Donc si ce régime veut continuer d'exister, eh bien il va falloir qu'il évolue. Alors pour l'instant, on a de grands criminels israéliens qui ont été à la tête du pays, notamment comme Netanyahou. Mais vous savez, dans quelques dizaines d'années, Netanyahou sera considéré comme un assassin, comme un criminel, même par son propre peuple. Hein.
Si ce n'est déjà fait.
Il y a quand même... Pardon ?
Si ce n'est pas déjà fait, donc.
Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Donc il y a quand même une évolution qui tient, malheureusement, pour les Palestiniens, c'est une évolution qui est extrêmement lente et qui est beaucoup trop lente, et le monde occidental a une très grande part de responsabilité dans cette lenteur, puisqu'ils ont toujours soutenu Israël face à la Palestine. Donc il est vrai que ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors il est vrai également que dans le monde occidental, on hésite à se mettre Israël comme un ado pour des raisons tout simples, c'est qu'à travers le monde, les réseaux israéliens ont noyauté la société politique au plus haut niveau, et ce qui leur permet d'avoir ce soutien indéfectible du monde occidental. Il faut savoir que ce monde israélien représente beaucoup, beaucoup d'argent, et aujourd'hui, beaucoup de politiciens sont prêts à se taire et à fermer les yeux sur un certain nombre de situations parce que Israël représente une force de frappe financière importante.
Mais bien sûr, à l'aide des États-Unis, car Israël sans les États-Unis...
Ah, bien sûr. Et pas seulement à l'aide des États-Unis, mais avec l'aide de tout le monde occidental et l'Europe en fait, hein.
Absolument. Mais cette fois, monsieur Philippe Hugon, nous avons l'impression que c'est différent, car cette fois, le peuple israélien sont extrêmement mécontents donc, de la situation économique, et cette réforme du système judiciaire n'est qu'un prétexte pour manifester contre le régime israélien.
Bien sûr, ben vous savez que c'est un schéma assez classique de montrer du doigt un autre problème pour cacher ses propres problèmes à soi. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Si Israël a choisi cette option politique, c'est pour détourner les yeux du monde face aux véritables problèmes. Et du fait que le problème maintenant vient de chez eux, au niveau interne à Israël, eh bien, il est beaucoup plus facile de montrer les Palestiniens comme étant le problème que de montrer leurs propres dirigeants et de se montrer soi-même en tant qu'incompétent politique. Et ça, c'est une véritable réalité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et Israël ne fait que d'utiliser des tas de ce problème-là, comme l'a fait de nombreux pays européens à travers les années passées.
Absolument. Ahmad Rami, que pensez-vous des propos de Philippe Hugon, donc, qui est en colère contre le système israélien ?
Je suis totalement d'accord avec son analyse. Hein. J'ai fait la même analyse aussi. J'ajoute seulement que, comme d'ailleurs il le dit indirectement lui-même, que l'entité sioniste, l'occupation sioniste, occupe la Palestine militairement, mais ce qui est tragique, avec la différence, beaucoup de différence, c'est que cette entité sioniste, ce lobby sioniste mondial, qui occupe militairement la Palestine, occupe politiquement, économiquement, médiatiquement, tous les autres pays et les grandes puissances, occupent le monde entier. Donc c'est ça c'est ce qui est dramatique. Parce que c'est dans une question comme la question palestinienne qui est très claire, il y a une occupation dans le judaïsme, la terre promise est un des piliers, grands piliers du judaïsme. Hein. Bon, donc c'est la terre promise, c'est-à-dire l'occupation de la Palestine, qui est dans la base même du judaïsme et du sionisme. Et donc c'est clair et net que c'est une occupation fondée sur des bases, religieuses, idéologiques, et que malgré maintenant toute cette vision claire, le monde entier soutient Israël parce que c'est Israël qui occupe militairement toutes les grandes puissances. Hein. Si on voit par exemple maintenant en Syrie, il y a aussi bien les Américains que les Russes, que les Turcs, que Israël collaborent et s'organisent pour occuper la Syrie, pour démembrer la Syrie. Absolument. Pour détruire la Syrie.
Absolument. Oui. Philippe Hugon, est-ce qu'il y a moyen donc d'empêcher déjà les Israéliens de continuer comme a dit M. Ahmad Rami, ou c'est bien le peuple israélien donc lui-même qui va empêcher donc cette politique hégémoniste du régime sioniste à l'égard de beaucoup de peuples, entre autres donc les territoires occupés de la Palestine?
Oui, ben moi je dirais que c'est l'évolution et les années qui passent qui vont faire évoluer les choses dans le bon sens. En ce qui concerne le problème palestinien, eh bien il est clair que si le monde occidental, lors de la création d'Israël, avait été en soutien pour les Palestiniens, il y a longtemps que ce problème-là n'existerait plus, que chacun aurait son propre territoire et qu'il y aurait une très bonne entente. Donc en fait, c'est par l'inertie qu'a pris le monde occidental vis-à-vis du problème palestinien que les problèmes persistent encore aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y a quand même de grands changements dans la société israélienne, notamment dans les lycées, dans les universités. Vous avez un grand nombre de jeunes qui en ont par-dessus la tête de ce conflit, qui en ont par-dessus la tête de toutes ces inégalités et qui voudraient voir une situation normaliser afin de pouvoir vivre en paix. Moi, je pense que c'est la nouvelle génération qui arrive maintenant, qui va faire changer les choses, que ce soit d'ailleurs au niveau israélien ou au niveau palestinien. Il y a cette nouvelle génération qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus envie d'avoir des victimes dans leur propre famille et qui ont envie de vivre en paix. Donc, je pense que c'est ça l'avenir de la région. C'est une entente entre les Palestiniens et les Israéliens. Et ça, malheureusement, on a notamment du côté israélien beaucoup de gens qui ne voulaient rien lâcher, qui voulait conserver un certain nombre de choses qui ne sont plus conservables aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier également qu'il y a une évolution de la part des nouvelles générations en Occident qui n'ont plus du tout envie qu'on aide aveuglément un pays comme Israël qui va tuer des Palestiniens d'une façon régulière. Parce que c'est ce qui se passe depuis 60 ans aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est plus tolérable. Et plus on va avancer dans le temps, moins ce sera tolérable pour les Occidentaux, et surtout pour les dirigeants occidentaux qui subiront les pressions de la rue de la part de ces nouvelles générations et qui ne pourront plus soutenir ouvertement Israël comme ils le font actuellement.
Monsieur Philippe Hugon, vous parlez donc de l'espoir, vous parlez de cette nouvelle génération, la jeune génération. Donc, est-ce que parmi cette génération, on peut citer, par exemple, récemment, cette semaine, un jeune Palestinien qui avait observé la grève de la faim et qui est malheureusement mort dans les geôles israéliens de ce combat?
Oui, je pense que ce jeune Palestinien fera partie d'une longue liste de martyrs qui auront donné leur vie pour essayer de faire avancer politiquement les choses. Et je pense qu'Israël ne pourra pas fermer encore longtemps les yeux. Même chose pour le monde occidental, on ne pourra pas continuer de fermer les yeux sur des problèmes aussi graves. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui et ce n'est plus tolérable.
Monsieur Ahmad Rami, est-ce que vous partagez donc l'espoir donc de Monsieur Philippe Hugon, de cette nouvelle génération qui va peut-être changer les choses?
Pas l'espoir, mais le souhait. Je souhaite que ça va se passer comme ils s'attendent. Mais il faut savoir que aussi l'un des grands piliers du sionisme et du judaïsme, c'est la aléa, c'est-à-dire le devoir de retour. Hein? Le retour, c'est-à-dire de chaque juif de retourner en Palestine, où il n'a jamais été, hein, c'est seulement une légende. Mais maintenant, il y a la presse israélienne, je l'ai d'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui dans mon tweet, la presse israélienne, aujourd'hui, s'inquiète que beaucoup d'Israéliens commencent à penser à quitter Israël. Après avoir réalisé leur devoir de retour, maintenant, ils vont retourner vers leur vraie patrie, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, dans tous les pays. Il y a beaucoup maintenant d'Israéliens qui pensent à quitter l'occupation parce que l'occupation automatiquement engendre, fait naître la résistance. C'est une règle historique dans tous les pays. Quand il y a une occupation, il y a la résistance. Le peuple palestinien n'a pas d'autre choix que de résister, alors que les occupants ont le choix d'abandonner leur occupation, de retourner chez eux, comme maintenant les occupants en Palestine font. Parce que, comme j'ai dit, les Palestiniens sont chez eux, ils n'ont pas d'autre patrie, et tout ce qu'ils demandent, c'est d'être des égaux de tous les êtres humains dans le monde entier, c'est-à-dire ils demandent d'être égaux des Juifs, même en Palestine, même de rester en Palestine, qu'ils ont les mêmes droits, mais qu'ils ont les mêmes droits. Mais parmi les piliers aussi du sionisme et du judaïsme, c'est que le peuple élu, c'est-à-dire les sionistes se considèrent comme le peuple élu de Dieu, et les non-juifs, parmi les Palestiniens, ce sont des sous-humains. Leur place, c'est d'être dominé, occupé par le lobby sioniste juif.
Absolument. Bien. Monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, depuis Stockholm, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre, qui nous a accompagnés depuis la France. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Un haut commandant de l'armée iranienne a déclaré que l'armée disposait des meilleurs systèmes de radars et de missiles au monde. Les forces armées de la République islamique d'Iran ont renforcé leur pouvoir de dissuasion contre les ennemis, a déclaré mardi 9 mai le commandant des forces de défense aérienne de l'armée iranienne, le général de brigade Alireza Sabahi Fard. Il a déclaré que les scientifiques et techniciens iraniens ont réussi à fabriquer divers équipements militaires. Les experts et techniciens militaires iraniens ont ces dernières années fait de grands progrès dans la fabrication d'une large gamme d'équipements de fabrication nationale, rendant les forces armées autosuffisantes dans le domaine d'armement. L'Iran soutient que sa puissance militaire ne représente aucune menace pour les pays de la région, affirmant que la doctrine de défense de la République islamique est entièrement basée sur la dissuasion. La force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique a testé dimanche 7 mai avec succès une roquette de fabrication nationale équipée d'une ogive thermobarique qui fonctionne avec un système explosif carburant air. Le Fajr 5 est une roquette de 333 mm dont la version guidée, connue sous le nom de Fajr 5C, avait été précédemment livrée aux unités de la force terrestre du CGRI, est actuellement équipée d'une ogive avec une puissance plus destructrice. La puissance destructrice de la nouvelle ogive thermobarique, qui utilise l'oxygène de l'air ambiant pour générer une explosion à haute température, serait 1,5 fois supérieure à celle du TNT et augmente le rayon de destruction et l'effet thermique de la roquette. La sensibilité inférieure de l'explosif thermobarique à celle du TNT en a fait une option plus sûre par rapport aux ogives conventionnelles. Le Fajr 5 est connu comme la version la plus avancée et la plus longue portée des roquettes sol-sol Fajr qui ont différentes classes pour différentes fonctions. La fonction de la nouvelle ogive thermobarique ferait de la roquette Fajr 5 une arme appropriée pour la lutte contre l'écoterrorisme dans les zones montagneuses et difficiles d'accès où les terroristes construisent généralement leurs abris et leurs tranchées. Le ministre iranien de la Défense a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran d'équiper l'armée syrienne des armes et équipements militaires défensifs les plus avancés. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a fait ses remarques lors d'une récente réunion avec son homologue syrien, le général de corps d'armée Ali Mahmoud Abbas, soulignant le soutien de longue date de son ministère et des forces armées à l'armée syrienne dans la guerre à grande échelle contre les groupes terroristes opérant partout en Syrie. Ce ministère, ainsi que d'autres secteurs économiques et civils, sont prêts à lancer, fabriquer et équiper les forces armées syriennes avec les armes défensives les plus avancées, a déclaré le ministre de la Défense. La République islamique d'Iran est prête à coopérer avec la République arabe syrienne pour construire des usines et lancer des lignes de production de produits de défense stratégiques afin de promouvoir la sécurité du peuple syrien, d'établir une infrastructure de défense multilatérale et de renforcer la puissance militaire du pays, a-t-il encore fait savoir. Le ministre syrien de la Défense, pour sa part, a souligné que la sécurité et la stabilité de son pays ont été établies avec le soutien de l'Iran et de ses vrais amis. Le renforcement de la puissance de défense de la Syrie, en tant qu'un membre de l'axe de la résistance, rendra le pays plus préparé à combattre le terrorisme, a-t-il dit. Appréciant le soutien du ministère iranien de la Défense dans le domaine de la diplomatie de défense, le général Ali Mahmoud Abbas a déclaré « Les ennemis ne ménagent aucun effort pour nuire aux relations fraternelles et amicales entre l'Iran et la Syrie. Cependant, les relations entre les deux pays, l'Iran et la Syrie, continue de s'approfondir chaque jour pour servir la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région. L'Iran demande instamment la poursuite rapide et complète de l'affaire de l'assassinat par Washington en 2020 de haut commandant antiterroriste de la République islamique et de l'Irak, le général de corps d'armée Rassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandis. Lors d'une rencontre avec Faher Zaidan, le chef du Conseil judiciaire suprême irakien, mardi 9 mai, le président iranien Ibrahim Raisi a mis en garde contre la perte de temps dans les procédures en cours pour traduire en justice les auteurs de l'atrocité. La poursuite de l'affaire jusqu'à l'obtention d'un résultat concret montrera que l'Iran et l'Irak ne reculeront devant rien dans leurs efforts pour permettre l'administration de la justice envers les auteurs des assassinats, a-t-il rappelé. Le président Raisi a déclaré que la détermination de l'Irak à s'attaquer au jeu déloyal épouvantable des Américains et ses efforts pour renvoyer ceux qui avaient commandité l'atrocité étaient clairs pour la République islamique. Pour sa part, le responsable irakien a déclaré que la poursuite du procès des individus impliqués dans cet acte terroriste était un des exemples de la coopération judiciaire fondamentale entre Téhéran et Bagdad. Cela intervient alors que Jabbar Oda, membre de l'Alliance irakienne du cadre de coordination, a déclaré que toutes les procédures judiciaires étaient en cours à Bagdad concernant l'assassinat du haut commandant antiterroriste iranien, le général Rassem Soleimani, et de ses compagnons, ajoutant que les résultats de l'enquête seraient annoncés prochainement. Jabbar Oda a déclaré lundi que les États-Unis, le régime sioniste et leurs mercenaires ont été directement impliqués dans l'assassinat du général Soleimani et de Mohandis près de l'aéroport international de Bagdad. Suite à la mort à martyr de trois commandants de haut niveau de la résistance palestinienne, le djihad islamique, lors de frappes aériennes israéliennes du mardi 9 mai sur la bande de Gaza, le groupe de la résistance palestinienne Fausse Lion a averti le régime de Tel Aviv d'attaques surprises et de représailles sans précédent. Il n'y a pas de voix plus forte que celle du front de la résistance palestinienne, a déclaré le groupe basé à Naplouse dans un communiqué jurant de se venger du sang des martyrs de Gaza en ouvrant cette fois les portes de l'enfer aux sionistes de Naplouse. La Fausse Lion a ensuite présenté ses sincères condoléances pour les assassinats ciblés de trois commandants de haut niveau des brigades Al-Rots, la branche armée du mouvement du djihad islamique de la Palestine. Dans les premières heures du mardi, Israël a lancé des frappes aériennes sur plusieurs zones de Gaza, tuant 13 personnes, dont trois hauts commandants des brigades Al-Quds, branche armée du mouvement du djihad islamique de la Palestine, ainsi que tous les membres de leur famille. Plus de 20 personnes ont été également blessées dans ces attaques. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a fermement condamné ces dernières attaques, rappelant que l'action israélienne est un signe de la faiblesse du régime agresseur face aux actes héroïques de résistance de la jeunesse palestinienne en Cisjordanie et à Rots, ajoutant que les frappes aériennes visent à détourner l'opinion publique de la crise interne en Israël. Kanani a noté que le silence et l'inaction des organisations internationales et des pays occidentaux face aux actes inhumains d'Israël qui se sont intensifiés contre le peuple palestinien ces derniers mois ont encouragé le régime de Tel Aviv à poursuivre ses crimes. Cela sera inscrit dans l'histoire comme un précédent honteux par les faux défenseurs des droits de l'homme, a-t-il dit. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé à une action immédiate, efficace, dissuasive et coordonnée des pays islamiques pour faire cesser les crimes israéliens. Il a aussi exprimé ses condoléances aux familles endeuillées, espérant un prompt rétablissement pour les blessés. L'Arabie saoudite et la Syrie ont annoncé la réouverture de leurs missions diplomatiques respectives dans les deux pays selon les médias d'État, plus d'une décennie après que Riyad a rompu les liens et commencé à apporter son soutien au groupe terroriste anti-Damas. Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé de relancer sa mission diplomatique en République arabe syrienne, a rapporté mardi 9 mai l'agence de presse saoudienne. Damas a également annoncé la reprise des activités de sa mission diplomatique en Arabie Saoudite, rapporte Sana, l'agence de presse officielle syrienne. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec la Syrie après le déclenchement d'une guerre dévastatrice soutenue par l'étranger en 2011. Au cours des deux dernières années, la campagne antiterroriste de la Syrie et le retour au calme dans la majeure partie du pays ont incité de nombreux États de la région à renouer avec Damas. Il y a trois semaines, le président syrien Bachar al-Assad a rencontré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, à Damas, une première depuis 2011. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.